Voilà, donc c'est une rencontre de carême et le conseil pastoral, le AP, ont souhaité que cette rencontre, comme les deux précédentes, celle de l'Avent avec le rabbin, celle sur le carême et sur le jeûne avec l'imam, qu'elle se joue dans la continuité de l'esprit de Med 23, donc des rencontres et du dialogue. À Med 23, on a publié, ici, au Mistral, à l'ICM, à l'Institut catholique de la Méditerranée, et avec une vingtaine d'institutions méditerranéennes, un texte modeste, hein, d'une quinzaine de pages, et qui est intitulé « Pour une théologie depuis la Méditerranée ». Il a été publié, il a été rendu manifeste, c'est un manifeste, et il en a eu un grand retentissement, il en a toujours un, et ce texte se propose d'être en dialogue circulaire avec les réalités pastorales de Méditerranée. Or, Marseille, la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul se trouve presque sur le bord de mer. Donc nous sommes en Méditerranée. Alors on s'est dit, mais puisque ça concerne aussi la vie pastorale, la vie paroissiale, pourquoi ne pas essayer de dialoguer là-dessus, de le prendre aussi comme guide, un manifeste, c'est une sorte de guide, il y a des repères pour une navigation. Donc ce soir, on va partir, on part du Vieux-Port, et on fait une navigation, on commence une navigation avec des repères, en essayant de trouver du sens à ce qui se vit autour de la Méditerranée. Voilà donc ce que l'on s'est proposé. Jeanne m'a interpellé un jour en me disant « Mais les Oxy ont participé aussi à la présentation de ce manifeste dans l'amphithéâtre du Mistral. » Alors c'était à un niveau théologique, il y avait trois théologiennes, un théologien, j'étais à un niveau théologique un peu soutenu, mais Jeanne me disait, pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas ce texte précisément dans le cadre de la vie de l'Église en France et ici à Marseille? Donc on a commencé à en parler. On a continué nos échanges et on s'est dit, puisque on a parlé aussi avec Amaya, qui est dans le conseil pastoral de la paroisse, et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas trois à le présenter de manière dialogique, comme cela? Et cela, d'autant plus que Amaya, tu es dans le psychologue, enfin, je te laisserai te présenter. Mais quand on parle du dialogue, hein, ça ne peut pas rester à un niveau théologique, ça ne peut pas rester à un niveau de dialogue des peuples. Nécessairement, ça passe par le dialogue interpersonnel. Donc, est-ce que quelqu'un d'entre vous, à part les Oxy et ceux qui ont participé à la rencontre de septembre au Mistral, ont déjà eu dans les mains ce texte ? Oui, très bien. Voilà. Alors, il est gratuit sur le site de l'Institut catholique de la Méditerranée. Hein, si vous allez sur le site de l'Institut catholique de la Méditerranée, je crois que vous n'avez pas mis le lien sur le site internet. Sur le site internet de la paroisse, vous avez le lien vers le manifeste et vous pouvez le télécharger ou le lire directement sur votre écran. 15 pages. Alors la genèse de ce manifeste, c'est que l'Institut catholique travaille avec une vingtaine d'institutions des cinq rives de la Méditerranée. Et donc depuis un an et demi, on travaille à cette théologie. Alors vous allez me dire, théologie, déjà ça me fait peur.
Non.
Bon, tant mieux, tant mieux. Sinon, vous ne seriez pas venu. Mais quand on entend théologie, qu'est-ce que vous entendez par théologie? Comment ça résonne en vous? C'est quoi une définition brève? Allez, un petit brainstorming. C'est quoi de la théologie? Pour vous. Pour vous, hein? Pour vous. Même si c'est. Même si ça date de 5 siècles. C'est quoi la théologie? La science de Dieu. Ah oui, théo, logos, relié. Bon, très bien, oui, oui, science sur Dieu, oui. Encore. Grosse tête, bon, étymologiquement, je... mais oui, quand même, théos, logos, La parole est Dieu, oui, et oui. Et là, pour un catéchumène, là, qui se prépare à la confirmation, ça résonne comment, là? Trop fort, trop fort. Confirmé.
Moi, je suis tombé dedans quand j'avais 17 ans. Je
n'ai pas encore bien. Bon, ben voilà, voilà. En tout cas, avant Vatican II, on avait surtout une théologie néo-scolastique. Donc, elle répondait, c'était néo-thomiste, hein, saint Thomas d'Aquin, c'est quand même important. Et puis après, ben, saint Thomas qui a rédigé, qui a pensé sa théologie au XIIe siècle, XIIIe siècle, et qui essayait de répondre aux questions de son temps avec les philosophies de son temps et avec la source de la tradition chrétienne, biblique, des pères de l'Église. Donc la théologie, c'était pour ça, pour lui, c'était ça. C'était les problèmes de notre temps, les pensées philosophiquement avec les philosophies du temps, et puis avec une source, la théologie, il y a une source, c'est les Écritures, la tradition chrétienne, les pères de l'Église, le sens hein, qui vient de la révélation en Jésus-Christ. Thomas a fait ça, mais après, ça s'est un peu sclérosé, dans le sens où on a pris sa théologie et on a eu tendance, pas tous, mais à en rester là et ensuite à plaquer ses idées sur le réel et sur ce que vivait l'Église. Donc faire de la théologie en ce temps-là, c'était surtout penser à partir de ce qui était déjà donné et essayer de le plaquer sur la culture du temps. Donc, si vous aviez des questions qui correspondaient aux réponses déjà écrites, vous étiez excellent. Si vos réponses, vos questions n'étaient pas dans les livres déjà écrits, alors là, ben, y avait des réponses seulement aux questions déjà posées, mais pas aux nouvelles questions. Oh, je caricature. Depuis Vatican II, la théologie se place sur un autre niveau. Elle part des questions de notre temps et elle essaye d'y répondre avec les sagesses, les philosophies de notre temps, donc les philosophies actuelles, hein, modernes, et elle a toujours sa source dans les Écritures. D'accord ? Mais vous voyez, les questions de notre temps et les philosophies de notre temps, comment les philosophies répondent. Et à cela, on a une source qui irrigue le raisonnement philosophique, ça devient de la théologie, et qui essaye de répondre aux questions de notre temps. D'accord ? Donc, pratiquement, comme le dit Agnès Charlemagne, qui est catéchiste, elle dit, ben, moi aussi je fais de la théologie avec les enfants. Parce que les enfants me posent des questions, je cherche des réponses avec leur mentalité et avec la source de la Bible, j'essaye d'y répondre. Et les enfants eux-mêmes font de la théologie, puisque les enfants, à partir de leurs questions et à partir de leurs raisonnements, essayent de prendre l'Évangile comme source Et eux aussi, dans le caté, qui est dialogué, ils essayent d'y répondre. Donc voilà, on a remis la théologie à son niveau. Hein, non plus quelque chose de surplombant, mais... Et donc on a essayé de se demander quel repère pour la Méditerranée, pour les questions qui se posent en Méditerranée, environnementales. Social, politique, migratoire, économique. Toutes ces questions-là se posent dans le bassin méditerranéen, différemment qu'en Lorraine où je suis né. Différemment dans le bassin méditerranéen. Comment entendre toutes ces questions? Comment tenter d'y répondre à partir de la foi qui nous anime et des philosophies de notre temps, de manière intelligible. Voilà ce qui nous a animés. On a travaillé pendant 1 an et demi. C'est passionnant, passionnant de travailler avec des Libanais, avec des Israéliens, avec des Égyptiens, avec des Roumains, parce que la Roumanie, elle est quand même sur une des 5 rives. Hein. Il y a une petite plage roumaine entre la Bulgarie et l'Ukraine, hein, sur la mer Noire, qui est une des rives de la Méditerranée, parce que Ulysse parle de Odessa. Donc, c'est la Méditerranée. Avec le Maroc, avec des théologiens qui s'intéressent à l'Algérie, avec des Catalans, avec des Marseillais, avec des Romains, avec des Italiens, avec des Palermitains, avec des Grecs. C'est passionnant. Et on a imaginé, entre les rives, des regards très différents et des questions très variées qui se posent. La question de la paix aujourd'hui, elle se pose de manière très variée. Entre une Israélienne dont le compagnon fait la guerre à Gaza et un Libanais qui est bombardé par l'armée israélienne. Les questions se posent de manière différente. Mais voilà, on s'est mis en écoute des récits, des narrations. Et ça a donné lieu à ce texte. Très brièvement. Donc, c'est une cartographie pour naviguer. Ce document est né de l'écoute des récits des rives. Donc, aujourd'hui, il y a aussi des récits ici. Nous ne pouvons pas rester inertes face aux urgences sociales, aux contradictions en Méditerranée. Nous vivons sur une sorte de frontière, dans un entre-deux. La Méditerranée, c'est une frontière, plutôt un entre-deux, entre les récits. Et on voit l'importance des récits aujourd'hui, entre les récits qu'on peut entendre du côté de la Russie qui est sur la mer Noire, hein, les récits du côté d'Odessa en Ukraine, les récits, les différents récits. Chacun, et nous les Français aussi, le gouvernement français aussi, a ses propres récits. Chacun a un récit sur ce qu'il vit, sur son interprétation des problèmes. Et c'est indéniable. Il faut qu'on en soit conscient. Nous avons notre propre récit, nos récits. Et quand on se dispute entre clans à Marseille, là aussi, on a des récits différents sur une même dispute. Et souvent, c'est le récit des vainqueurs qui reste figé dans l'histoire. Donc, écoutez les récits. Habiter une frontière ou un entre-deux, les ballottements des vagues, et travailler à l'écoute de ce qui se vit entre les récits, et avec la source de l'Évangile, essayer de produire un récit méditerranéen nouveau, qui serait peut-être le récit de Dieu. Du moins, c'est la prétention de la théologie. Donc, écouter les récits, entendre l'Évangile et essayer d'interpréter ces récits du creux des vagues, là où habitent les bateaux, entre les ballottements. Du coup, au centre du texte, il y a cette phrase « Dieu est dialogue et le dialogue est le lieu de Dieu ». Dieu est précisément dialogue. Quand on dit qu'il est Trinité, ça veut dire qu'il habite les vagues de l'entre-deux. Ça veut dire qu'il est dans les ballottements. Il est en soi dialogue. et que quand on entre dans le dialogue des récits, alors on s'inscrit dans la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est habiter un entre-deux inconfortable. Le dialogue, c'est le lieu de Dieu. Donc chaque fois que nous essayons de dialoguer, en fait, avec un rabbin, avec un imam, entre nous, avec le monde d'aujourd'hui, avec notre territoire, c'est le lieu de Dieu. Nous sommes en Dieu, dans les ballottements de Dieu. Donc une théologie de l'écoute, une théologie affective, parce que les Méditerranéens sont affectives. Je me prépare à aller deux fois à Palerme, en mai et en juin. Ah, ça, c'est un coup de pub pour Christian. Ah, il faudra que je le prenne à part. Non, il n'y a qu'un dimanche. Mais voilà, mais c'est affectif. Et la théologie a le droit d'être affective, parce qu'elle essaye de penser les récits affectifs en Méditerranée. Et Dieu a montré de l'affection en Jésus-Christ. Donc je ne vois pas pourquoi la théologie ne serait pas aussi également affective. Et on veut surmonter le divorce entre la théologie et l'action pastorale. Ce qui se vit dans la paroisse, sur le territoire, intéresse directement la théologie. On devrait avoir une théologie paroissiale, une théologie de la paroisse. Ça serait vraiment une vraie théologie. Il faut qu'elle s'incarne. Sensible à la religiosité populaire, une théologie de l'entre-deux, on l'a vu, donc qui essaye de s'intéresser à toutes les interconnexions, à toutes les relations, parce que, comme le dit François, tout est lié. Donc, acceptons que tout soit lié, tout est lié là autour de nous. Et qu'est-ce que ces liens nous disent en habitant l'entre-deux ? Donc, une théologie de la Méditerranée, c'est quoi ? C'est devenir le levain d'un récit méditerranéen. Vous voyez, notre rencontre voudrait devenir, pour la paroisse, une sorte de récit, enfin, jeter les bases d'un récit paroissial nouveau, pour les temps, pour notre temps, dans le nouveau contexte. C'est ça. Vous voyez, c'est une gageure, c'est pas rien. C'est apprendre à voir avec les yeux de Dieu dans un temps nouveau, avec des questions nouvelles, avec une méthode nouvelle, et toujours avec la même source, qui est celle du Dieu dialogue. Évidemment, les premiers interpellés sont les plus pauvres, les plus vulnérables. Pas de théologie sans les plus pauvres, sans quoi notre théologie est aérienne. Et puis, une théologie qui veille, dans les interconnexions, à intégrer pleinement, la pleine citoyenneté, tous ceux qui viennent. Mais je crois qu'à Marseille, ça, c'est vraiment la qualité de la ville de Marseille. Et alors tout ça nous mène, nous conduit, nous facilite, nous encourage dans le cheminement synodal. Le synode, c'est se parler, se dialoguer, pour avoir un récit nouveau, et se parler entre nous pour parler ensuite avec les églises de Méditerranée. Vous voyez, on est en plein dedans. Et là, en se parlant entre nous, nous croyons que Dieu, qui est dialogue, va parler d'entre nous. Et c'est son récit que nous voulons écouter. Sa texture dans le contexte. La texture de Dieu dans le contexte. Alors tout cela, bien sûr, pour un avenir de paix. Et dans une expérience religieuse hospitalière. En ce sens-là, la Méditerranée peut, de par sa situation particulière, encourageant le dialogue, devenir aussi une source d'espérance, pas seulement pour les églises en Méditerranée, pour les peuples de Méditerranée, mais pour d'autres peuples qui ont besoin aussi de ce type de dialogue. Vous voyez comment cette théologie s'est générée, ça a donné un manifeste pour continuer à réfléchir tout cela. Alors, je vais passer la parole à Jeanne qui va se présenter, à tous, et qui a. C'est dans un dialogue tel que celui-ci qu'on a vu des choses nouvelles. On a vu bourgeonner quelque chose, ne le vois-tu pas ? Et que peut-être on n'a plus l'habitude de voir. Et on s'est dit, ça, il faut le dire. C'est un autre récit. C'est un autre récit par rapport au récit, peut-être, qui est devenu un peu classique. Je laisse la parole à Jeanne, qui nous en dira beaucoup plus. Jeanne Touvard.
On se connaît.
On se connaît, hein. Qui ne connaît pas Jeanne? Ah, peut-être notre catéchumène. Eh oui.
Je fais partie de la communauté des auxiliatrices qui vit au Mistral. Donc, j'ai trois sœurs ici, deux sœurs.
Excusez-moi,
l'auxiliatrice. Ah, une bonne question, et on n'a pas tout dit.
C'est le nom de la famille, mais je vous expliquerai un peu plus longuement l'origine après. C'est pas de mélanger. Excusez-moi, j'ai une voix un peu cassée, mais je vais faire mon possible pour être accessible. Alors d'abord, effectivement, c'est un récit. C'est le récit c'est l'histoire d'une femme que je rencontre de temps en temps. Alors, elle habite dans les quartiers nord de Marseille. J'essaye d'être un peu souple. Peut-être certains d'entre vous la connaissent, donc j'aimerais mieux que ça se diffuse pas trop. Mais l'exemple m'a paru tellement caractéristique que je me suis dit tant pis. Mais soyons discrets sur la situation après. Alors, il s'agit d'Odette. Elle vit dans les quartiers nord de Marseille et elle a 83 ans. Elle est célibataire. Elle est issue d'un milieu très modeste, genre quart-monde rural, au nord de la France. Elle a été à l'école jusqu'à 14 ans et puis ensuite, elle est partie travailler dans des usines de textile de son coin. Et très jeune, elle a rejoint un groupe de la JAC, la jeunesse agricole chrétienne, qui autrefois était très, très proche des gens dans le monde rural. Et là, elle a été surtout accompagnée par un prêtre de la Mission de France qui l'a beaucoup marquée. Quelques années plus tard, elle est sollicitée pour rejoindre l'équipe nationale de la JAC à Paris. Elle arrive donc à Paris très jeune, peut-être 18 ans, je ne sais pas, dans des conditions très précaires, mais elle est très intéressée parce qu'elle vit avec la JAC. Et puis, il y a une crise dans ce mouvement. Peut-être que vous vous en souvenez, certains des plus anciens, il s'agissait d'abandonner le terme de catholique, jeunesse agricole catholique. Et elle n'était pas d'accord avec ce débat, donc elle a quitté la JAC. Mais du coup, elle s'est retrouvée seule à Paris, un peu démunie. Et finalement, elle s'est fait embaucher dans une association pour former les femmes à la cuisine. Mais elle ne savait pas cuisiner. Mais elle a pris l'idée, parce qu'il fallait bien qu'elle vive. Elle a acheté un livre de cuisine et puis elle a appris à cuisiner à ces femmes. Finalement, elle a été repérée par les responsables de cette association qui lui ont proposé de faire une formation d'éducatrice. Alors elle s'est lancée dans cette formation. Et puis finalement, à la fin de cette formation, elle a été envoyée par la même association dans un pôle marseillais. Et là, elle était dans un lieu en contact avec des femmes en grande précarité et souvent avec des étrangères. Et là, elle travaille pendant 30 ans. Elle rejoint les quartiers nord de Marseille et participe à la vie d'une paroisse très populaire, avec un prêtre très coopérant avec des laïcs. Elle est formée par ce prêtre et elle bénéficie de toute la période conciliaire et post-conciliaire. Et elle vit avec bonheur cette pastorale du post-conciliaire, très ouverte et avec beaucoup de collaboration entre laïcs. Et entre autres choses, elle fait pas mal de catéchuménat. Donc le catéchuménat, c'est quand même un lieu où on rencontre pas mal de gens aux périphéries et souvent des très pauvres. Et puis, quand le moment venu, elle prend sa retraite et le prêtre avec lequel elle collabore quitte cette paroisse parce qu'il atteint l'âge de 75 ans. Elle continue quand même son engagement dans cette paroisse, mais se retrouve avec des prêtres qui travaillent dans un autre esprit. Elle s'accroche, elle essaye de dialoguer et de poursuivre la collaboration, puis se décourage et abandonne divers services, ne gardant que des services matériels et aussi le lien avec le catéchuménat. Elle en abandonne la responsabilité, mais elle continue d'accompagner des catéchumènes, et généralement, c'est des gens vraiment très pauvres. Et tout en vivant ses engagements pastoraux, elle a des engagements dans le quartier. Elle fait partie du CIQ, elle appartient à des associations diverses dans ce cadre. Et en particulier, elle participe au soutien scolaire des enfants, qui sont souvent des enfants d'immigrés. Elle participe à un vestiaire qui accueille des pauvres du quartier. Et puis, c'est sûr que durant toute cette période, elle voit le quartier beaucoup évoluer. La population change. Ce sont de plus en plus des familles d'émigrés. Et la plupart viennent plutôt des pays du Maghreb. Ce qui explique pour une part, que le nombre des chrétiens diminue et cela retentit sur la vie de la paroisse. Et puis, les personnes impliquées dans la vie de la paroisse sont de moins en moins nombreuses, ne se renouvellent pas, les collaborations chaleureuses qu'elles vivaient auparavant disparaissent, et Odette s'affronte à une grande solitude, et finalement, elle abandonne. Elle abandonne ses engagements pastoraux et les responsabilités qu'elle a dans la paroisse, elle garde seulement le catéchuménat. Et elle se concentre sur les liens avec son quartier. Elle connaît beaucoup de monde, puisqu'elle vit depuis longtemps. Elle visite les familles, dont la plupart sont des familles maghrébines, qu'elle rencontre souvent dans le cadre de ses activités, le soutien scolaire et le vestiaire. Et elle reste aussi proche des personnes qu'elle connaît dans le cadre du catéchuménat. Donc tout ça, c'est un peu du monde de la périphérie, comme dirait le pape. Et quand elle parle des collaborations qu'elle vit, je sens une belle proximité, source d'amitié, de fraternité, d'accueil mutuel, chaque personne donnant son temps, ses capacités au service des pauvres de ce quartier. Et finalement, je sens un grand respect de chacun pour la religion de l'autre. Alors, personne n'ignore qu'elle est chrétienne, mais elle sait très bien qu'elle est avec des musulmans, et du coup, ça dialogue, ça s'explique, ça travaille ensemble. Et surtout, je trouve que chacun, dans sa religion, trouve des raisons de se mettre au service des autres, de rendre des services qu'ils rendent ensemble. Et je sens bien que là se vit un esprit de dialogue, un climat de rencontre, une fraternité, et tout ça au service des plus pauvres. Et finalement, c'est vrai que ça construit la paix. Mais très, très réellement, sur le quartier, ça crée des liens, ça fait... Bon. Alors moi, je suis assez émerveillée de ça. D'autant plus que, d'une part, elle souffre de l'évolution de la paroisse, et j'essaye petit à petit de lui faire comprendre que les choses se déplacent, et que ce qu'elle vivait avec beaucoup d'enthousiasme dans sa paroisse, eh ben, elle est en train de le déployer autrement, dans son quartier, avec les pauvres et avec tous ces gens étrangers qu'elle rencontre. Donc c'est pour ça que, d'une certaine façon, elle m'a révélé quelque chose de Mai 23, en fait. En l'écoutant, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ça que la théologie de Mai 23 nous invite à vivre? Et il me semble que cette expérience rejoint ce que le pape François est venu nous dire à Marseille dans le cadre du rassemblement de Mai 23. Le pape François, pèlerin de la Méditerranée, après l'avoir été en Amazonie, est venu ouvrir nos cœurs et nos esprits à ce que ce site privilégié de la Méditerranée inspire pour l'évangélisation aujourd'hui. Une mosaïque de peuples, de religions, autour d'une mer commune qui a été un berceau de civilisation. Et c'est dans cet espace que sont nées les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et pour nous, chrétiens, la Méditerranée a été l'espace qui a permis à la bonne nouvelle de l'Évangile de se répandre et de rejoindre toutes les rives du monde depuis saint Paul. Et l'histoire nous apprend que cette mer de la Méditerranée a été effectivement à la fois le berceau de vie, de communication, d'ouverture humaine, mais aussi, il faut le reconnaître, un espace d'affrontement fratricide. Et aujourd'hui, le pape parle de cimetière, après avoir eu l'image du berceau. Maintenant, il parle de cimetière pour tous ceux et celles qui cherchent à fuir la violence, les guerres, les injustices et qui ne rencontrent que l'indifférence de nos pays repliés sur eux-mêmes. Alors, il me semble que nous sommes convoqués, dans cette actualité dramatique, à prendre conscience de notre héritage commun, à la fois culturel, humain et spirituel. Et du coup, à partager nos ressources réciproques, qui sont diverses, à mettre en commun la diversité de nos ressources pour nous mettre ensemble au service de la paix et de la fraternité. Alors, voilà, très modestement, il me semble... C'est vraiment très modeste, vous voyez, c'est une personne, mais Je trouve qu'il faut savoir voir ces petites choses-là, parce que sinon, on va désespérer. Il me semble que ce que vit Odette résonne pleinement avec le message de Maître 23 et la venue du pape. Comment mettre en œuvre ce message dans notre quotidien ? Nous nous sentons si démunis et si pauvres face au terrible drame des personnes qui meurent et traversent la Méditerranée, ou dans les affrontements inqualifiables qui se déroulent aujourd'hui entre Gaza et Israël. Donc Marseille est depuis toujours un carrefour de peuples venus de diverses rives de la Méditerranée, depuis la Grèce à l'origine, en passant par les rives du Proche-Orient, du Moyen-Orient jusqu'à l'Ukraine. Et aujourd'hui, l'immigration de beaucoup de peuples africains, maghrébins et des pays en guerre au Moyen-Orient nous touche en plein cœur. Et chaque jour, nous sommes affrontés à cette réalité douloureuse. Comment la vivre ? Comment être ce prochain qui prend soin, selon les interpellations du pape ? Il me semble que l'évolution que vit Odette est significative de ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Sans l'avoir choisi, Odette s'est trouvée déplacée par les événements. Elle ressent cela très douloureusement, mais l'évolution qu'elle vit n'est pas sans lui procurer de vraies joies, parce que cette évolution est en consonance avec l'Évangile qui lui tient à cœur. On pourrait dire que c'est son sens de la mission qui la déplace à son insu. En fait, c'est moi qui essaye de lui faire comprendre qu'il y a quelque chose, il y a une espérance là-dessous. Elle ne le voit pas trop, mais en fait, elle est tellement tournée vers les autres de façon fondamentale que, ben, tant pis, elle se satisfait de ça d'une certaine façon. Et moi, j'essaie de lui dire, mais c'est plus que c'est vraiment dans le sens de l'histoire d'une certaine façon et dans le sens de ce que l'Église cherche aujourd'hui. Alors, il me semble qu'elle nous parle d'une présence simple à ceux et celles qui nous entourent, avec lesquels nous partageons la vie d'un quartier, ou une ouverture à ce que vivent nos voisins de palier ou d'immeubles, les gens de la rue que nous côtoyons, et les appels innombrables des migrants de plus en plus urgents qui débarquent à Marseille. Accueil de leurs besoins, de leurs attentes, une attention particulière pour l'étranger, un partage aussi de nos propres attentes, une mise en commun de nos ressources, aussi modestes soient-elles, nous rendre service mutuellement et ainsi construire des liens de fraternité au lieu de construire des murs. Alors c'est sûr que ça, effectivement, je sens que pour Odette, ce qui est très important, c'est qu'elle puisse en parler. Et éventuellement, et de fait, petit à petit, ça se passe, mais qu'elle rencontre d'autres personnes avec qui, justement, un dialogue puisse se mettre en place. C'est par la parole et par l'échange que, tout doucement, cette expérience, ce genre d'expérience, peut prendre une certaine dimension, peut prendre du poids, et peut aussi intervenir dans la vie de l'Église. Alors, pour conclure, je voudrais simplement dire quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Un jour, Odette tombe malade, une grosse grippe, un truc comme ça. C'est pas grave. Mais elle ne peut plus sortir de chez elle. Et elle ne peut plus non plus faire ses courses. Aïcha, une personne avec laquelle elle travaille au vestiaire, l'apprend. Sur le champ, Aïcha vient la voir, fait son ménage, fait ses courses. Alors Odette est très touchée. Elle ne comprend pas. Mais pourquoi tu fais tout ça pour moi ? Et Aïcha de lui répondre, parce que tu m'écoutes.
Merci Jeanne. Donc là, il y a le récit d'Odette. Il y a le récit de Jeanne sur le récit d'Odette. Il y a du levain dans le récit de Jeanne. Il y a une lecture. Et puis, il y a le récit d'Aïcha. Qu'il s'agirait d'écouter aussi. Mais on a un récit nouveau. Je ne sais pas si ça devient clair, cela. Hein, c'est un peu ça, oui. C'est vraiment la mise en... comment, l'expression de cette démarche théologique dans l'écoute des récits. Alors, notre question, notre interrogation... C'est quelle lecture une psychologue peut faire de tout cela, de cette démarche pastorale, cette démarche théologique. Je te laisse te présenter, Amaya.
Oui, donc à Maya Kourou, et je suis effectivement psychologue clinicienne. Ah oui, je suis pas forte. Alors, à Maya Kourou, je suis psychologue clinicienne. Alors effectivement, on est parti plutôt du thème de l'écoute. Alors, je vais en parler de manière un peu théorique, mais après peut-être qu'on arrivera ensemble à faire des ponts pour éclairer un petit peu aussi le témoignage de Jeanne et puis le manifeste. Voilà. Alors, je suis revenue à quelque chose de très simple, les définitions déjà de qu'est-ce que c'est que l'écoute. J'ai trouvé comme définition être attentif à un bruit, un son, à de la musique, les entendre volontairement. Et une deuxième définition, c'est prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Il y a accepter d'entendre ce que quelqu'un a à dire et lui donner audience. Et la dernière définition, c'est tenir compte de ce que quelqu'un dit. Bon, je crois que ça nous éclaire, enfin, ça nous rend attentifs à ce sujet. Et du coup, pour un peu, on va dire, peut-être donner un peu de forme à qu'est-ce que l'écoute, et en tout cas peut-être dans une perspective un peu psy, je vais m'appuyer sur un psychologue humaniste américain qui s'appelle Carl Rogers, que peut-être vous connaissez, donc qui a développé toute une approche de psychothérapie qui s'appelle l'approche centrée sur la personne. En fait, c'est un psychologue qui a beaucoup exploré tous les processus de changement chez les personnes, dans le sens de, pour lui, l'individu va toujours vers le développement, la maturité et la plénitude, et comment la psychothérapie peut justement les aider à aller dans ce sens-là. Et donc, pour le citer, il dit « J'entre dans la relation thérapeutique, non comme un savant ou un médecin capable de donner un diagnostic exact et de guérir, mais en tant que personne entrant dans des rapports personnels. Dans la mesure où je ne le verrai que comme un objet, le client tiendrait à ne devenir qu'un objet. » En fait, alors le terme objet, sujet, c'est des termes en psychologie, effectivement. En gros, le sujet, ça ramène à la question du vécu, de la subjectivité. C'est ce qu'on dit quand, tout à l'heure, Patrice disait le récit. En fait, c'est le vécu de chacun. Donc effectivement, lui, ce qu'il dit, c'est qu'à partir du moment où l'autre est considéré comme un sujet, donc quelqu'un qui a sa propre manière de vivre et de voir et de penser les choses, alors on le rend déjà, on le fait exister en tant qu'un individu unique. Enfin, voilà. Il dit que l'être humain possède en lui-même toutes les ressources nécessaires à son développement. Et donc lui, il va développer toute une technique qu'il appelle l'écoute active, qui est aussi nommée l'écoute bienveillante, et qui permet d'établir un lien profond et de favoriser un climat d'ouverture et de confiance. Elle suppose de la part du thérapeute une écoute attentive du discours verbal et non-verbal, et une reformulation des éléments exprimés par la personne, et pour essayer de faire un reflet du ressenti et des émotions. En fait, à chaque fois, l'idée, c'est de reformuler les choses pour vérifier si ce qu'on a entendu est au plus près de ce que la personne a voulu dire. Donc finalement, ça devient un outil, cette écoute active, pour s'ajuster à la personne et puis essayer d'être au plus près dans quelque chose de très authentique, très respectueux aussi de ce que la personne peut apporter. Et puis essayer d'utiliser l'empathie, en tout cas pour être le plus précis possible, on va dire. Cette technique, elle permet de créer un climat de confiance, de favoriser l'expression d'un problème, d'une problématique. Là, en l'occurrence, on est vraiment dans le cadre de la psychothérapie, donc les gens viennent quand même avec une demande et une difficulté, on va dire. Dépasser son propre cadre de référence, donc ça, c'est pour le psychothérapeute, pour essayer de comprendre celui de l'autre, de la personne qui est en face. S'assurer d'avoir bien cerné le sujet et de lever les malentendus qu'il pourrait y avoir, et clarifier la problématique pour essayer d'orienter un petit peu la personne, l'aider à penser, quoi. Donc effectivement, là, mon angle, il est très lié à la psychothérapie, mais je pense que ça peut aussi éclairer plein de fois les malentendus qu'on peut avoir avec d'autres, ou des moments d'écoute que tout le monde a de toute façon dans toute relation, et qui peut peut-être nous intéresser aujourd'hui. Donc peut-être qu'on pourrait se dire qu'il y a peut-être des repères clés, on va dire, qui sont toujours peut-être favorables ou qui favorisent peut-être en tout cas une entrée en relation et une vraie qualité de relation. Ce serait peut-être la bienveillance. Alors la bienveillance, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais en gros, c'est être dans une disposition de compréhension de l'autre, une forme d'indulgence, quoi. On part de ce principe. Un autre repère, ce serait aussi de avoir en tête que l'autre, à partir du moment où l'autre est forcément unique, on est tous différents. Donc l'autre est différent. Et donc c'est aussi, quand on est dans une position d'écoute, savoir mettre ses propres références et sa propre culture un peu de côté, ou en tout cas en veille, pour être plus attentif et disponible à l'autre. Ce qu'on pourrait nommer une forme de neutralité, qui ne doit pas empêcher d'être soi et de penser par soi-même, mais d'être dans une posture de non-jugement et en tout cas de laisser la place à ses différences et à l'autre. Il y a l'écoute du discours verbal et non-verbal, parce qu'effectivement, là, on parle beaucoup de ce que dit la personne, les mots qu'elle emploie, mais il y a aussi tout ce qui passe au-delà des mots, les intonations de la voix, les expressions du visage, les gestes, les attitudes, voilà, la posture corporelle. Tout ça, ça indique aussi beaucoup de choses. Voilà. Le respect de la juste distance, ça, on va en reparler un petit peu plus loin, parce que c'est une notion qui est importante. Et la reformulation, donc, comme je disais, qui permet à chaque fois de vérifier qu'on s'est bien compris, qu'on a bien perçu les choses. Alors effectivement, la juste distance, c'est un point en tout cas qui m'apparaît important. Et c'est quelque chose qui est toujours un peu mis au travail, que ce soit en tant que psychothérapeute, mais surtout, moi je le vois auprès des patients, c'est souvent quelque chose qu'ils viennent réinterroger dans leur relation, parce que vraiment une relation pose problème. Finalement, cette question, elle revient souvent, la question de la distance avec l'autre. Et donc, moi pour l'illustrer, je sais pas, j'ai toujours un peu cette image, c'est deux personnes qui sont face à face, et il faudrait imaginer un fil très fin qui est entre les deux et qui permet de faire circuler les choses, et qui doit ni être trop tiré parce qu'on risque de le casser, et ni trop distendu parce que finalement ça veut dire qu'on serait trop collé à l'autre et on ne lui laisserait pas la place et on serait trop dans une indifférenciation. Alors pour la juste distance, en fait, oui, je vais le développer, mais c'est pas moi qui vais le développer. J'ai trouvé un texte que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui a été écrit par des professionnels qui travaillent au centre qui s'appelle Primo Levi à Paris, et qui est une association qui est dédiée aux soins, au soutien des personnes victimes de torture et de violences politiques. Et c'est un peu l'équivalent à Marseille du centre Osiris, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, il y a plein de choses dedans. Après, on pourra peut-être en reparler. Don et dette. Don sonne bien. Don sonne comme le bon. Dette sonne mal. Dette sonne comme la bête. Le bon et la bête. Ils sont figés dans une dualité où chacun doit rester à sa place. Le bienfaiteur d'un côté, qui est une bonne personne, et de l'autre, celui qui reçoit et doit se trouver redevable. Cette dualité, ce duel, crée des déséquilibres dans les relations, entre les personnes et dans la société. Tu me dois tout, après tout ce que j'ai fait pour toi. Les pays riches, les pays pauvres, les premiers de cordée, les assistés. Je suis désolée, ça m'émeut toujours. C'est une vision purement comptable des choses, partielle. Et à dessein, souvent partielle. Je suis désolée. Car elle permet d'asseoir la domination de celui qui peut donner sur celui qui a besoin de recevoir. Je suis désolée. Il est en fait question ici de pouvoir et inévitablement d'abus de pouvoir, qui est l'antichambre de la violence. Il n'y a qu'une lettre de différence entre rendre service et rendre servile. Et cette proximité phonétique, cette étymologie commune, sont une invitation à penser le don de façon contre-intuitive, non pas comme une bonne action, mais comme une manière d'asservir l'autre en l'enchaînant avec des actes bénéfiques qui sont autant de dettes. Comment dès lors, au centre Primo Levi, qui est le lieu qui soigne la violence politique, éviter de reproduire, dans un paradoxe douloureux, des mécanismes de prise de pouvoir sur des patients très précaires? Comment soutenir sans aliéner? La réponse, c'est Élise Plessis et Pauline Langlade, les assistantes sociales du service, qui nous la donnent. Cette réponse, c'est la reconnaissance. Elles expliquent qu'au-delà du geste, au-delà du don, il s'agit en fait de remettre en route les liens avec de la reconnaissance mutuelle. Cette reconnaissance se produit dans un mécanisme de circulation de la dette ou encore de compensation permanente entre le don et la dette. « Aide-moi à t'aider », avait dit l'abbé Pierre, c'est bien de cela qu'il s'agit. De la recherche d'un équilibre dans la relation, d'un partage, d'une égalité entre deux dignités qui se lient, ici à l'occasion du soin. Paul Ricoeur aussi nous aide à réfléchir quand il dit « La reconnaissance consiste à trouver la juste distance avec un autre ». Distance, ce mot prend tout son sens au centre Primo Levi. Distance géographique, distance sociale, distance linguistique, distance sanitaire, distance éthique entre le soignant et le patient. Tout est distance au centre Primo Levi, alors même que nous affirmons régulièrement être au plus près de nos patients. Mais quelle est la bonne distance ? C'est la distance juste, ni trop loin, ni trop proche. La circulation de la reconnaissance doit être ajustée et équitable. C'est une exigence d'autant plus forte pour nos soignants qui sont engagés dans une relation qui peut être déséquilibrée alors même qu'il s'agit de rendre à nos patients leur équilibre. La notion de juste distance nous offre un mode d'emploi symbolique pour une éthique du soin. Voilà, enfin, c'est dur de rebondir après un texte aussi chargé, je trouve. Enfin,
c'est riche.
Vraiment, en le relisant, je me dis, il y a beaucoup de choses dedans. Alors, en discutant avec Jeanne et Patrice, on s'était dit qu'une notion importante aussi, peut-être, à retenir, c'était la notion d'impuissance. Parce que c'est quelque chose aussi qui revient très souvent, enfin, dans les relations d'aide. Je pense que tout le monde peut l'avoir éprouvé et l'avoir retenu. C'est quelque chose qui est souvent exprimé dans le milieu du social, quand on veut venir en aide. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on peut la reconnaître? Est-ce qu'on peut la supporter? Qu'est-ce qu'on en fait? Et par quoi elle est sous-tendue? Et c'est vrai que, moi, en tout cas, j'aime bien cette image de me dire, finalement, l'impuissance, c'est accepter de renoncer à la toute-puissance. Et quand on pense à un tout petit enfant, les enfants qui ont 2-3 ans, là, les terribles du tout, là, ce qui est dur, c'est de renoncer à cette toute-puissance. Et on les voit, c'est compliqué de supporter la frustration, etc. Et en fait, quand ils acceptent de plus être tout-puissants, ben, ils gagnent en maturité. En fait, ils arrivent à gérer leur frustration. Et donc, finalement, c'est assez encourageant de se dire que, voilà, même dans ces positions où parfois, on est très impuissant, finalement, c'est juste nos limites. Et heureusement, c'est sain. En fait, on ne peut pas être dans une toute-puissance. Ce serait dangereux, finalement, dans cette relation. Ça nous mettrait dans une position de pouvoir, quoi. Donc, voilà, une notion qu'on trouvait importante aussi à développer.
J'ai une question, je peux te citer. Alors, moi, je me présente, je suis policier à Marseille. Et je suis en contact permanent avec des victimes de violences conjugales, des victimes de violences intrafamiliales, dans le harcèlement scolaire, mais par exemple sur les violences conjugales, on parle de puissance. Moi, je suis la puissance publique, en fait, pour la personne. Et lorsqu'elle vient se réfugier dans un commissariat, la frustration, je l'ai quand je vois la puissance publique qui ne peut pas trouver à 2h du matin, un hébergement pour cette femme et ses enfants. Et quand je vois après qu'on peut trouver des milliards pour continuer à s'engluer dans une volonté de, on le voit avec l'Ukraine ou ailleurs, de ailleurs. Je vais te donner un exemple. C'était le 24 décembre. Je travaillais, j'étais au commissariat de Noël ce soir. Ce soir-là, il y a une dame qui vient avec deux gros sacs. L'observation de la personne, plus venant. la précarité, mis dehors par sa propre fille. Elle vient de demander assistance, elle nous demande de lui donner le numéro de téléphone des petites sœurs des pauvres pour l'hébergement. Injoignable. Après minuit, c'est une sociale injoignable. Qu'est-ce qu'on fait? Le seul endroit où il y avait de la lumière, c'était le commissariat. Je suis monté, j'ai pris un peu de soupe, parce qu'on voulait, on avait fait un petit repas. Elle m'a dit je ne peux pas manger pour avoir mes problèmes dedans. Ce soir-là, elle a passé la nuit au commissariat, au chaud. Et dans la même nuit, le 24 décembre, les collègues nous ramènent un chien qui était sur la DP qui pouvait créer un accident. Dans l'heure, une association de protection des animaux est venue récupérer le chien, lui a donné des croquettes et lui a donné aussi de l'abonnement. À mon niveau, je suis sorti du commissariat, vous connaissez à moi, je suis sorti pour pleurer parce que je ne voulais pas pleurer devant elle, pour ne pas l'humilier. Parce que voilà, ça j'ai du vécu. Alors, quand on parle de frustration, là j'étais frustré. Et tout à l'heure, ce que a dit la sœur et le père et vous, quand on parle de la théologie de l'Internet, et j'arrêterai, c'est que quand on creuse bien des causes, s'il y a des causes, des gens qui partent, des gens qui fuient, des causes économiques, ça fait penser à Mathieu, ça m'a de suite à l'infétique. Ça me fait penser à Matthieu 6, 24, quand il dit qu'on ne peut pas servir deux dieux à la fois, maman et le Seigneur. Et les puissances d'argent aujourd'hui sont souvent les causes de ce qu'on voit aujourd'hui se passer dans le monde.
Peut-être que mais l'impuissance et l'injustice, c'est peut-être aussi des choses un peu différentes. Mais
l'impuissance de ne pas pouvoir mettre la force de la famille. On est le représentant de l'État.
Oui, mais vous n'avez pas rien fait. Déjà, vous êtes un lieu où elle a pu se réfugier.
Ah, oui. Enfin,
elle est venue, elle a porté plainte. Évidemment, on voudrait beaucoup plus, quoi. Mais.
Le guillemets d'État, comme on l'entend, omnipotent, est une blague. C'est une blague. Et ça, c'est pas une question, hein, c'est une affirmation.
Ah oui.
Je suis tenu dans le devoir de raison. Hein. Mais ce que je vois, moi maintenant je suis sur le 7e, j'étais au Chartres auparavant, et ça touche tous les mieux. Hein. Parce que quand on a affaire au problème de l'alcool, on a affaire au problème de violence, c'est vrai que des fois, dans certains milieux, c'est caché.
Eh bien, on a encore un récit. On a un autre récit, oui. Oui. Alors, pour synthétiser un petit peu, en fait, cette théologie veut être une sorte de levain pour favoriser, hein, de nouveaux récits méditerranéens. Et on a eu l'exemple de ce levain dans les récits entre Odette, Jeanne. Je connais aujourd'hui l'archevêque de Palerme qui m'a raconté à table, c'était bien arrosé, donc il s'est livré. Et il m'a dit pourquoi aujourd'hui il est si favorable à une théologie de la Méditerranée, au dialogue interreligieux, à l'attention aux migrants. Il me disait, mais j'ai vécu près de Syracuse et maman avait une amie qui venait la voir, qui l'écoutait, une musulmane, une migrante. Et il s'est créé une véritable amitié. Il dit, moi, j'ai grandi dans ce contexte. Et quand mon père est décédé, c'est elle qui a organisé les funérailles, le repas, qui a... Il dit, comment est-ce que je pourrais ne pas continuer à favoriser ces liens entre les rives de la Méditerranée, entre tous Donc il y a dans ces dialogues, il y a un vrai levain hein, qui, qui fait lever la patte, qui offre de nouveaux récits. C'est peut-être l'évêque de la conférence épiscopale italienne qui parle le mieux du dialogue de l'accueil de l'autre. Mais avec Amaya, on a creusé aussi ces questions du dialogue qui méritent d'être creusées, parce que c'est un peu facile pour un théologien, a priori, de dire Dieu est dialogue et le dialogue est le lieu de Dieu. Qu'est-ce que le vrai dialogue ? Ce respect de la juste distance, la dialectique du don et de la dette. Je pense que nous ne l'avons pas toujours présent cela à l'esprit. Et peut-être qu'en l'ayant plus présent, ça c'est la relecture comme ça d'un théologien, de pasteur, peut-être que Dieu se manifesterait mieux, que le levain monterait davantage dans la pâte. Voilà. Je ne sais pas. Je vous livre. Maintenant, c'est le débat, la discussion. Donc, oui. Comment favoriser ces récits nouveaux, ces mises en connexion nouvelles pour vivre cette synodalité méditerranéenne et vivre notre mission de chrétien au-delà des cadres que nous avons reçus dans un autre contexte, un autre temps, hein, comment le vivre aujourd'hui et qu'est-ce que vous voyez germer autour de nous et pour l'avenir? Voilà, un peu, on va essayer de discuter tout ça, de dialoguer là-dessus. Donc un dialogue de qualité. Vous pouvez vous adresser directement aussi aux personnes qui...
Moi, je crois qu'il y a un maître mot, si ça s'appelle l'accueil.
Un maître mot, l'accueil, plus fort.
Et puis ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se sentir les meilleurs. Que notre religion ne doit pas dire je suis la meilleure. Et ça, c'est compliqué pour moi, parce que on nous dit quand même tout le temps qu'il faut témoigner de ce qu'on vit, de Jésus, du Christ. Or, si on accueille l'autre, on ne va pas lui essayer de le convertir, je ne crois pas. C'est ça qui est difficile, je trouve.
Ça, vous voulez dire que ça nous met en position de supériorité?
Oui, c'est vrai.
Oui, à moins de... Mais c'est juste, je crois. En tout cas, la théologie de Vatican II a évolué là-dessus. Et puis, on a le beau document de 1991, Dialogue et annonce, qui montre que le chrétien ne possède pas la vérité. C'est un texte du Vatican, paragraphe 49. Le chrétien ne possède pas la vérité. Parce qu'une vérité, c'est une... Le Vatican explique, hein. Oh, oui. Il dit la vérité, elle est personnelle, c'est une personne en Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chrétien désire se laisser habiter par la vérité, mais il n'est pas pleinement habité par cette vérité personnelle du Christ. C'est dialogique. Donc il doit rester à son niveau. Ça veut dire pas meilleur que les autres, mais avec le désir de mieux connaître ce Christ, ce Verbe qui a lieu, le Verbe, hein, qui est dans le dialogue, le dialogos, c'est le lieu du Verbe. Donc plus je suis dans le dialogue et plus je me reçois du Verbe, hein, et plus peut-être il peut m'habiter. Ça, c'est la réponse du théologien. Donc vraiment, là, il faut être au clair, nous ne sommes pas meilleurs. Mais nous croyons qu'en lui, il s'est manifesté et nous désirons être habités par lui.
Cela me fait penser à ce qu'a écrit le cardinal Aveline dans son livre, son dernier livre, Petite théologie de la mission, où il dit que reconnaître la mission comme dialogue de salut, c'est accepter que les rencontres que Dieu suscite transforment autant celui qui annonce l'évangile que celui qui le reçoit.
Qui bosse à l'éducation nationale, je crois que c'est. Enfin, on peut témoigner sans convertir. Hein. pense qu'aujourd'hui, dans la salle des profs, tout le monde sait que je suis catholique, grand thème, pratiquant. Et je sais aussi qui est musulman, pratiquant. Je sais aussi qui est athée, qui bouffe du curé au petit déjeuner. Ça n'empêche pas qu'on dialogue et qu'il y a de la distance pour parler à Mia. Et ce n'est pas un souci.
Quelle
est l'amitié, un peu ? Comment ? Quelle est l'amitié ? Il n'y a pas forcément d'amitié, mais en tout cas, il y a une distance qui fait qu'on peut se parler, quoi. On peut se parler, et je peux témoigner de alors peut-être pas de Jésus-Christ, mais en tout cas, au moins des valeurs que ça m'insuffle, hein, sans forcément convertir l'autre. Je trouve que c'est plus compliqué dans l'Église catholique. Je trouve que c'est plus compliqué avec les catholiques qui ont des... Ben, peut-être oui. Bon, on fait comme ça et comme ça, c'est ça qu'on en sait là.
Et qui pensent avoir raison, qu'il n'y a que eux qui ont oui. raison, c'est ça le truc.
Oui, c'est plus entre cathos, j'ai l'impression que qu'avec les autres. Parce qu'on se ferait embrouiller dans les cordes assez vite. Quoi.
Oui, mais quand tu as par exemple, moi je vois que j'avais un ami, il a été invité, vraiment un ami, hein, et pratiquant musulman, et on avait souvent des discussions. Bon, c'est vrai que lui, il avait du mal à comprendre, mais même nous, il faut rester humble à la Trinité, c'est compliqué. Là. Ils ont une vision différente, c'est la Vierge Marie, Jésus, l'auteur, le fils de Paul. Et lorsqu'on on discutait, il n'avait pas peur de dire tu te trompes, tu es un égaré. Mais c'était pas.
Oui,
il y avait pas du prosélytisme, mais pour lui, il a dit déjeuner là, il a dit le père. Il m'a dit tiens pas gentil. Mais par contre, je reniais pas non plus que pour moi, dans mon cœur, mon âme, ma foi était la bonne. Autrement, je n'aurais pas choisi d'être catholique et maintenant je vais aller vers la confirmation. Après, il faut rester dans le respect, et sans dans la dispute, mais la disputation, si on a le niveau aussi, parce que souvent, aussi des musulmans qui maîtrisent aussi les textes. Hein. Donc, il ne faut pas non plus. Voilà, il faut savoir, il hein, faut raison garder quand on ne connaît pas. Mais il ne faut pas non plus avoir honte de ce qu'on est.
Sans avoir honte, hein. Sans avoir honte. Hein.
C'est intéressant aussi, pour rebondir. Hein. Oui.
Moi, je pense comme ça, enfin, je me permets de dire ça en parlant de la personne. Vous, vous pensez autre chose, nous, on voit autre chose, et on a la même façon de voir les choses.
Mais moi, c'est ma manière de voir les choses.
Oui, mais après, on peut discuter avec les autres musulmans, enfin, différentes religions. Ça.
Beaucoup aussi, souvent, dans la religion musulmane, disons.
S'il vous plaît. Vous vous adressez à l'ensemble de notre groupe.
Oui.
Hein. Il faudrait qu'on vous entende.
Mais Amaya nous expliquait que dans le dialogue, je m'intéresse vraiment à l'autre, mais je suis moi-même. Je n'oublie pas qui je suis.
Il faut qu'il y ait une différenciation. Mm-hmm. Sinon, il y a de la confusion.
Mais pour... Oui, Christian.
Le récit de Jeanne, je trouve ça extrêmement intéressant. Une femme qui s'est lancée dans l'Action catholique, donc dans la boutique église. Je ne sais pas comment ça se fait, mais elle a dû démissionner petit à petit. De la boutique église. Et c'est ça qui l'a tourné vers l'extérieur. Oui, je crois que c'est tout à fait ça la vision. On part de nos richesses. On est déçus, on n'est pas déçus, peu importe. Mais le bon Dieu nous pousse vers l'extérieur.
Exactement. C'est vraiment ça que je sens là, très fort.
Oui. Ça me fait penser, là, en écoutant le père, là, je vous recommande, vous le trouverez dans le prochain journal, un petit livre écrit à deux mains par Jean-Paul Besco, qui est donc archevêque d'Alger, et le pasteur dont j'oublie le nom. Et c'est exactement, ils s'écrivent, ils se répondent, la relation elle est quasi permanente. C'est un petit bijou, 100 pages, un petit bijou, justement, de, à la fois de critiquer l'institution, parce qu'elle a été toujours monolithique, et en même temps, d'avoir une espérance folle, il n'emploie pas ce terme, mais c'est presque ça, l'un et l'autre, hein. Donc pasteur protestant, je dis responsabilité, Jean-Paul Mescaud, ça, on le sait, hein. Comment il s'implique dans... Bon, il est archevêque, mais dans l'ouverture, une ouverture parce que l'institution a trop, je vais vous dire, trouvé, hein, bloqué les choses, et c'est quand même un évêque qui parle, et qui vit, alors certes, dans une église pauvre, il vit à Alger, et avant c'était Oran, depuis pas mal de temps, avec une responsabilité, petite responsabilité, enfin, à la fois très grande responsabilité dans le milieu dans lequel il vit, avec une petite communauté dans une Algérie assez fermée. Et, mais c'est absolument passionnant, ce dialogue entre les deux. Bon, vous aurez les... C'est grâce à Jean Vagelli que j'ai eu ce petit bouquin, remarquable, absolument remarquable, c'est un coup de cœur. Vous allez voir après la présentation, mais c'est exactement ce que le père vient de dire.
En renonçant à ce qu'a dit
Amaya,
et Bernard, je me dis, la situation étant ce qu'elle est, on a la chance, peut-être un kairos, pour employer un grand mot théologique, oui. La chance, dans un milieu professionnel ou un milieu associatif, je travaille comme médecin avec Médecins du Monde, il y a des catholiques, ça c'est sûr, et ils savent que je suis sœur, il y a des catholiques, il y a des non-catholiques, mais on est ensemble à travailler avec l'accueil de nos migrants, et on essaye ensemble pour qu'ils trouvent la santé, mais... là aussi, on écoute, alors des fois c'est pas la même langue, il y a un dialogue verbal, pas verbal et tout ça, comment on construit ensemble eux et nous pour qu'ils puissent trouver un mieux-être, si je résume un peu les situations multiples qu'on rencontre. Donc on a des problèmes de langue, on reçoit des gens qui ont fait un parcours compliqué, ils sont traumatisés, mais on travaille, il y a cette synergie, c'est moi qui m'émerveille, cette synergie, on est ensemble et on partage ceux qui les ont accueillis la première, les travailleurs sociaux, l'équipe soignante, tout ça, pour, avec eux, comment on fait pour qu'ils puissent trouver un peu de santé. Et je me dis, là, on a, c'est une forme de dialogue au service de la vie, et on a, je me dis, c'est la chance de travailler. Chrétiens, oui, là, moi, eux, ils savent que je suis sœur, les autres qui ne le sont pas. Mais moi, je sais aussi, il y a des infirmières catholiques et tout ça, et il y a des non-catholiques, mais on est ensemble pour le service de la vie de ceux qui échouent et qui arrivent là.
Ce sont des êtres humains.
Et vous recherchez la même chose.
Et on recherche la même chose, et on construit quelque chose. Et pour moi, je ne sais pas, c'est une forme un peu de dialogue, quand même. D'écoute et de dialogue.
D'humanité surtout.
Oui, humanité.
Entre les théologiens de la Méditerranée, on était très heureux de mettre 23 et d'avoir fait ce beau travail ensemble. Et on s'était déjà fixé un projet. Et 15 jours après, le 7 octobre, et là, on a eu des tsunamis en Méditerranée. Entre des théologiens qui sont au Maroc, qui sont en Égypte, qui sont en Israël, qui sont au Liban. Et à un certain moment, on s'est demandé, est-ce qu'on arrivera à continuer à dialoguer? Parce que c'était un peu idyllique en septembre. Et en octobre, on a été confronté à la réalité du dialogue, qui est très complexe. Et aujourd'hui, à cause de cela, on a un Libanais qui ne peut pas figurer dans les mêmes Zoom, les visioconférences, qu'une Israélienne. Ils n'ont pas le droit. Parce que lui, qui est prêtre et qui a des enfants, il est Melkite, hein, sa femme, si on le s'il est dénoncé, il part en prison pour plusieurs années. Donc le dialogue, on le voit comme on crée beaucoup de liens et on se disait ben, c'est bien. Et là, on a été. Alors, qu'est-ce qui, dans nos dialogues, fait clasher le dialogue? Je pense même entre catholiques, hein, puisque ça a été abordé.
Hein, c'est quand même, quand on parle de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, l'attaque du terroriste du Hamas, et quand on voit aussi aujourd'hui, excusez-moi, à tous, je n'ai pas honte de le dire, la volonté génocidaire de l'État d'Israël de pouvoir exterminer le peuple palestinien, si j'ose dire ça de manière un peu médiatique, je vais être montré du doigt et stigmatisé d'être antisémite. Donc, je risque même d'être convoqué devant les tribunaux. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans les médias aujourd'hui actuels, on a quand même la télévision, parce que là, par la chaîne publique, chez les Coutinous et de la famille LCI, si c'est une grève, plus de. Et si on écoute ces chaînes-là, il ne faut pas oublier qu'on est dans on n'a pas de contradiction. Si qui vient, par exemple, un médecin du monde. Qui n'est pas du tout ni musulman, qui ne parle pas de religion, mais qui dit factuellement, qui explique ce qui se passe, on va lui dire, mais c'est un allié du Hamas. Alors, quand on creuse un peu, on sait que le Hamas, c'est bon, financé un peu par Israël, pour toute possibilité de paix, deux États vivant ensemble, en paix. Ça aussi, c'est...
Oui, on a vu qu'à Marseille, ça a soulevé des guerres. J'étais le jour d'après, je crois, avec l'imam et le rabbin à la chambre de commerce et d'industrie. On avait un dialogue et on a été évacués parce qu'il y avait une manifestation pro-palestinienne et la chambre de commerce a évacué parce qu'elle craignait d'être incendiée, les portes, etc. On a été évacués par la petite porte. L'imam, donc c'était Abdeslam Souiki, l'imam a accompagné le rabbin jusqu'à sa voiture pour le protéger. Je me suis dit, ça, ce sont des attitudes, des postures qui sont une sorte aussi de réaction à des impasses du dialogue verbal. On en a de ces impasses peut-être dans le monde catholique aussi, hein, entre catholiques, je ne sais pas. On pourrait relever aussi un peu ça et comment on fait face à... Enfin, comment est-ce qu'on apprend à dialoguer en profondeur?
Il y a un manque d'écoute aussi, non? C'est toujours le même discours et on dirait qu'on prêche dans le désert. Pour en revenir à cet incident. Et ça fait combien de temps qu'il y a toujours ces manifestations? La finalité, personne ne la connaît, je pense.
Comment il y avait une question? Non. Là, Jeanne a, je ne sais pas si tu l'as aidée, mais en tout cas tu nous as aidés à voir ce que Odette ne voyait plus.
Oui.
Et tu nous as aidés à voir germer quelque chose.
Oui.
C'est une forme de reconnaissance, c'est une circulation de la reconnaissance, cela, je ne sais pas. Mais comment, aujourd'hui, où on a un virage civilisationnel, où on ne voit plus les mêmes choses qu'avant, comment s'entraider à voir ce qu'on n'est pas habitué encore à voir? Et peut-être même pour vivre la mission de l'Église, comme Christian peut-être l'a mis un peu en évidence. Comment s'entraider à voir ce qu'on ne voit, ce qu'on n'est pas habitué à voir?
Peut-être faudrait-il oublier tout ce qui est religieux, quelle que soit la religion, de penser qu'à l'être humain qu'on a en face, qui est un être humain comme nous, qui voit à sa façon son Dieu, qui est notre Dieu aussi.
Pas le même Dieu.
Bon, je crois qu'il y a quelque chose. C'est ce que je crois que Christine a souligné, c'est que
Christine.
Ce que Christine a souligné, c'est que c'est pas, on parle pas de Dieu. mais on est affairés ensemble à une activité très humaine. Là, on a un point commun. Et c'est ça que je sens chez Odette, c'est que finalement, elle se déplace. Elle, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle en direct, elle se déplace et elle va rencontrer d'autres qui ont les mêmes convictions qu'elle au niveau humain, au niveau d'une croissance de l'humanité. Et je crois que ça souligne ce que Christine a dit et aussi en écho avec Bernard.
Oui, et puis elle ne fait pas que faire et aller à la rencontre. Après, elle vient en parler.
Et elle Alors vient, ça, c'est très important.
Elle vient te raconter ce qu'elle vit et pour essayer de comprendre ce qui se passe aussi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi des choses qui se passent en plusieurs temps et qui se passent aussi avec différentes personnes. Et quand Christine racontait son travail, il y a tout ce travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a la rencontre avec la personne, le patient, mais il y a après aussi peut-être ce dialogue dans l'équipe de comment chacun a pu percevoir les choses, a pu comprendre une problématique, une autre. Et donc, c'est en plusieurs temps, à différents moments, mais aussi avec différentes personnes. Je pense que c'est tout cet enchaînement qui fait qu'à un moment donné, on arrive à relier les choses et à créer un tissage, tisser quelque chose, quoi, à commencer à construire.
Et un peu pour appuyer ce que dit Amaya, dans cette chronologie, il y a plusieurs moments où la personne elle est reçue par différentes personnes. Ensuite, on dit ce qu'on a ressenti les uns et les autres, le soignant, le travailleur social. On met ensemble ces données et puis qu'est-ce qu'on a proposé. Et alors, ce qui est très très important, ça on le fait depuis pas très très longtemps, peut-être un an, mais c'est très important. On a le numéro de téléphone des personnes, et si elles font une démarche auprès d'un CCAS, à un hôpital, etc., est-ce que ça a abouti? Comment ça s'est passé? On vous avait envoyé vers telle structure de santé? Ça s'est bien passé, pas bien passé? Où vous en êtes?
Ouais.
Et les gens, ils sont très, très heureux de cette reprise de contact.
On n'est pas dans la discontinuité, on poursuit les choses, quoi. Ouais.
Super. Quand on parle de théologie, on parle là de ce que le monde pourrait améliorer le dialogue, l'accueil. Mais est-ce que, quand on voit les discours de haine contre nos frères qui meurent, qui souffrent, qui sont dans la rue, qui traversent, qui se noient, quand on voit ces discours de haine, est-ce que là, en théologie, on peut ne pas oublier aussi notre foi chrétienne, catholique chrétienne, c'est un combat contre l'adversaire, contre la puissance des ténèbres. C'est pas une. Pour moi, la puissance des ténèbres, c'est pas une idée, on va dire, vaporeuse. Le mal existe.
C'est intéressant, c'est intéressant. On passera la parole aux autres membres de l'Assemblée. Hein. Quelle motivation c'est vrai que autant on a le dialogos, hein, le dialogue, autant on a le diabolos qui casse le dialogue, ou le Satan qui accuse l'autre. C'est l'esprit du contraire du dialogue, c'est vrai. Il faut que la parole circule.
Moi, je voulais réagir parce que sur les conditions de la relation d'aide et du dialogue, quand vous avez parlé de la toute-puissance, enfin justement, qui était un obstacle à ça, il y a un terme que qui me semble pouvoir être un peu relevé, qui est celui partant de convictions affirmées que chaque personne peut avoir, c'est dans la relation d'aide d'inscrire un principe de modestie de l'action, c'est-à-dire de dire je peux avoir toutes les convictions de la terre, si je veux établir une relation constructive d'aide, d'accompagnement, d'accueil, etc., je dois me mettre dans une position qui consiste à dire que je n'ai pas sauvé le monde, je vais rentrer, et c'est l'affaire qu'a présentée Jeanne, cette personne, Odette, c'est la modestie, et jusqu'à d'ailleurs accepter d'être aidée par la personne qu'elle aidait. Et donc cette réciprocité suppose des conditions, un état d'esprit qui me semble être, dans l'action qu'on conduit, on inscrit dans un principe de modestie de l'action, c'est-à-dire faire ce que je peux, tout ce que je peux, mais sans croire et sans penser que j'ai la vérité, parce que le dialogue n'est plus possible.
Oui.
C'est ce que Charles de Foucault avait découvert en Algérie. Charles de Foucault, il était allé là-bas pour faire des actions. Et en fait, quand il est tombé malade, et que c'est la communauté qui était autour de lui, qui l'a soigné, qui l'a guéri, il s'est rendu compte que c'était pas ce qu'il avait pensé, qu'il fallait qu'il fasse. Quoi. C'était justement accepter que les autres puissent l'aider, accepter d'être... Il y a eu tout un changement dans sa manière de voir les choses. Et peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Je ne sais pas. C'est plus juste.
Il y a une tradition africaine qui est avant tout maintenir la cohésion sociale. C'est un peu le but du dialogue. Alors, il y a certains sujets. Gaza, IVG, la fin de vie, tout le bazar. Moi, je préfère le silence. Je préfère travailler, comme disait Mertin, parce que c'est là où est la cohésion sociale. Les autres, ma foi, un jour, il y aura bien un petit coup d'esprit ça qui éclairera. C'est pas nos oeufs.
Anne-Charlotte, merci Christian.
Je rebondis sur ce que vous disiez là de Charles de Foucault qui pense arriver, etc. Et c'est vrai que moi, on a l'impression qu'on peut aider. Je peux parler parce que je suis assistante sociale, donc j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette relation d'aide, mais qu'elle ne fonctionne qu'à partir du moment où je vais laisser un espace. On en avait parlé dans la récollection, quel espace j'accorde à la rencontre de l'autre. Moi, je lui donne quoi comme espace pour qu'il me parle. Et que je mette toute la modestie que je peux dans l'action, mais c'est quand même avec ce que la personne va me donner, que je vais travailler, que je vais rentrer en relation, mais moi, je lui donne quoi comme espace. Et je trouve que dans la juste distance, dans l'échange, l'écoute bienveillante, il y a vraiment cette question-là. Et à travers... Il me semble quand même à travers l'amitié aussi, ayant vécu pas mal d'années en Algérie, on a vu ça. Qu'ils ont beau pas être très nombreux, cette église d'Algérie, mais ils sont au milieu de ce peuple musulman. Il n'y a aucune envie d'aller convertir, il n'y a pas de prosélytisme, mais on est dans la rencontre. Et c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on accorde comme espace et d'être convaincu quand même de ce que la personne qui arrive en face de moi. Elle va m'apprendre quelque chose.
Ça a changé. Oui, je voulais rebondir sur Odette, parce que j'ai vécu 24 ans dans les quartiers nord à la Sabine. Voilà, nos enfants jouaient avec les enfants musulmans, mais il n'y a jamais eu de religion. En disant je suis catholique, tout le monde savait que j'étais catholique pratiquante, mais il n'y a jamais eu de problème. Voilà, c'est ça. Donc, on avait le visage de l'église avait changé après parce qu'on a cassé les bâtiments, les familles chrétiennes ont déménagé, mais la salle paroissiale qu'on avait dans le quartier, c'était des femmes de toute nationalité, de toute religion qui venaient passer l'après-midi et ont partagé. Ouais. Ouais.
C'est.
Oui.
Jean-Marie, et puis ensuite.
Alors c'est un peu pour ça, quand même, tout ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on vit dans notre association sans pour un toit. On est bien placé pour vivre ça à longueur de journée, quand on est rencontre 1000 personnes. Mais c'est aussi pour ce que je veux dire, c'est pas pour reparler une fois de plus, même s'il faut le vivre, pour le jour, cette association, qu'on n'a pas voulu mettre dans l'intitulé. Alors qu'il y a une autre association la même, dans les quartiers nord, qui s'est intitulée catholique. Alors on n'a pas voulu, pour diverses raisons, mais justement pour pas qu'il y ait une barrière. Parce qu'on accueille quand même des musulmans, bien sûr. Enfin, on ne sait même pas d'ailleurs s'ils sont musulmans. On ne leur demande pas. Il y en avait un en 88 au-dessus de ta tête. Il vient de partir, il était ravi d'être dans ce... Et donc pour pas avoir cette barrière, Et puis aussi par la barrière avec les pouvoirs publics. Parce que on demande, on essaye d'avoir des subventions. Mais à partir du moment où s'affiche association Saint-Pierre-Saint-Paul, déjà. Hein, ouais. Non, sans pointe, je confonds, sans toi, je confonds avec, avec l'autre. Je confonds avec la clash. Sans pour un toit et afficher d'emblée que c'est une association catholique, c'est difficile. La relation devient plus difficile. On ne l'a jamais du tout expérimenté avec les différentes familles qu'on a, quel que soit l'âge et ce qu'elles vivent. Parce que là, elles repartent. Quand elles repartent. Mais quelque chose de tellement fort entre elles et avec nous.
Oui, moi je voulais remercier les différents points que vous avez donnés, qui sont peut-être au niveau de, du soin, mais qui sont aussi dans tout ce qui peut être relation avec des personnes très faibles. La bienveillance, oui. L'autre est différent, donc il faut faire, mettre pendant un certain temps, je dis un certain temps, nos références de côté, parce que, je veux dire, ils ont besoin aussi de savoir qui on est, et dans un dialogue. On peut pas, mais vous, c'est dans un cadre différent. Hein. Le respect de la juste distance, parce qu'ils existent en face de moi. Et puis, reformuler, pour moi, c'est redonner le positif de ce qu'on a découvert de cette personne-là. Et c'est ça qui met les gens en marche. Et je voudrais simplement dire une phrase d'une dame qui a vécu beaucoup de difficultés, beaucoup de pauvreté, il y a pas mal de temps. Et qui était devenue ensuite, qui aidait les autres, qui était devenue vraiment à sa place. Et on lui dit, quand est-ce que tu as commencé à bouger ? Et elle nous a dit, quand j'ai compris que vous ne pouviez rien pour moi. En fait, il fallait être à côté, mais pas à sa place. Voilà. Et donc ça, vous nous l'avez redonné. Je pense que pour toute rencontre, c'est tellement important d'être un être face à un autre être, hein, et de pouvoir donner, de pouvoir révéler peut-être ce qu'il y a de meilleur en chacun.
Merci. Une parole conclusive de chacune, de chacun d'entre nous, là, pour conclure, parce que je crois qu'on s'est fixé la limite horaire à 20h30, donc on y est. Jeanne.
En tout cas, merci d'être là. Ça veut dire qu'il y a quand même un souci de rencontre, de dialogue. Alors, on est très démunis parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre et parce qu'on est dépassé un peu. Mais en tous les cas, il y a cette ouverture. Et puis, je pense que le fait d'être sensibilisés ensemble à la question, ça peut peut-être faire surgir des choses qu'on ne connaît pas encore, mais qui peuvent surgir suite aux divers engagements que nous avons les uns et les autres. Et on a souligné l'importance de la parole, susciter des lieux de parole entre des initiatives différentes. Voilà, moi je pense que ça peut être une espèce de contribution très modeste, mais à entrer dans cette mentalité de dialogue et de l'écoute, surtout pour découvrir à travers cette écoute et ce dialogue ce qui surgit. Et c'est ça qu'Odette m'a appris, moi. Je me suis dit, mais elle m'apprend quelque chose. Et en particulier dans ce déplacement de l'Église. J'ai bien aimé ce qu'a dit Christian. Je sens tout à fait ça. Il y a une espèce de déplacement dans son désir missionnaire, d'une certaine façon, qui est toujours là, mais qui se déplace, qui change de lieu. Elle sort de l'institution, quoi. Elle est au périphérie. C'est ça que j'ai bien aimé, moi, c'est vrai.
Des nuages, j'étais obligé. Amaya, peut-être rôle conclusif.
Non, en fait, en écoutant Jeanne conclure, mais revenue cette histoire des traductrices. Je ne sais pas si j'en parle, mais...
Oui, oui, oui.
Me revient juste une image. J'ai lu récemment un livre qui est le témoignage d'une psychiatre, psychanalyste, qui va travailler aux Comores. Et elle raconte qu'elle travaille avec des traductrices, mais qu'en fait, en essayant de comprendre les difficultés de langue, donc en maoré et en français, qu'évidemment, la construction même de la langue fait qu'il y a beaucoup de choses qui échappent. Et en fait, elle décide de travailler avec les traductrices, qui ne sont pas formées au départ, mais qui, finalement, créent un groupe de travail et de réflexion sur ce travail-là. Et à un moment donné où elle explique qu'en fait, il y a des choses qui ne se traduisent pas, mais que finalement, du coup, qui est marqué différemment. Et donc, c'est soit des temps de suspens, soit des temps de silence, soit ils repassent par de la description, parce qu'ils ne peuvent pas nommer en un seul mot quelque chose. Mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas tant de traduire exactement, mais c'est de repérer ces déplacements, ces petits changements, ces variations, et même ces silences, quoi. Et que finalement, à travers ça, il se passe plein de choses. Et que même quand il n'y a rien, parfois, peut-être qu'il y a beaucoup. Enfin, voilà.
Un petit mot de conclusion de ma part. Mais je pense qu'on a fait un peu ce que le pape nous invite à faire, la conversation dans l'esprit. Le synode, c'est ça, hein, c'est converser, c'est dialoguer. Et il dit dans l'esprit, parce qu'il y a une qualité de dialogue à laquelle on est convié, on apprend. Et quand il y a ce dialogue dans l'esprit, je crois qu'il l'a dit aussi, il y a une sorte de conspiration. Parce que l'Esprit Saint, l'aspiration, hein, il inspire. Hein, il ne fait pas qu'inspirer, mais il inspire ensemble, quoi, à travers nos dialogues. Hein, il y a une conspiration. Il se passe quelque chose quand on s'écoute. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui s'engendre, quoi. C'est déjà une expérience synodale qu'on a faite, je crois. Hein. Et donc, je vous invite à l'aspect la conspiration de demain. Je vous en dis un mot, Sébastien.
Ah, merci. Vous devez tous le savoir, demain soir, il y a une prière de Thésée qui est prévue à la paroisse, comme on a l'habitude de le faire régulièrement. Vous êtes tous invités, bien sûr, à participer à ce moment-là, si vous êtes disponibles.
Quelle heure?
19h.
Ça, c'est la conspiration du jeudi.
Voilà, c'est ça. Mais on est dans la continuité, on est dans l'échange et le dialogue.
Oui. Voilà, on va peut-être. On conclut maintenant. Merci à vous tous.
Merci.
Non, mais on va la parole.